Grands-parents pour le climat organisait le 21 novembre 2018 à l'auditoire Chavannes de l'ULB la conférence Climat, quels enjeux politiques? Cette année 2018, l'appel aux consciences de grands-parents pour le climat avait convié Cathy Clairbeau, chercheuse en sciences de l'atmosphère et du climat, directrice au CNRS à Paris et professeure à l'ULB. François Guemen, professeur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège, il est membre du GIEC. Et enfin, Bruno Coppens, littérateur, mémorialiste, ironiste, satiriste. Pour des raisons de bonne compréhension, l'intervention de Cathy Clairbeau ne peut malheureusement pas être proposée. En effet, l'exposé repose pour le principal sur des supports visuels, impossibles à présenter par une audiodescription. L'enregistrement de cette soirée prend donc cours à la première intervention de Bruno Coppens.
Bonsoir à tous et à toutes, vous allez bien ?
Oui !
Vous allez bien ? Bon, alors, on m'a demandé d'intervenir. On m'a dit, Bruno, surtout, sois positif. Parce que François et Cathy vont plomber l'ambiance. Ils vont dire que rien ne va aller, qu'on va tous mourir bientôt. Alors, sois positif. Et tu as 2 fois 3 minutes 30. Voilà, 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 voilà. Alors, surtout à l'ULB, puisque dehors l'étudiant en gueule, abat la calotte, abat la calotte. Et ici, François et Cathy, il dit, préservons la calotte, préservons la calotte. Ça va être super facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de positif ? Ben d'abord, positif, vous êtes tous là déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Hein, on est tous un peu consternés par ce qui se passe dans le monde et concernés par la suite. Alors, je propose de faire un selfie tous ensemble, si vous voulez bien. On va envoyer ça à la planète entière et à Sarkozy et à Trump. Voilà, alors, j'ai pas tout le monde dans le... Vous pourriez pas vous pencher un peu sur... voilà, et vous pencher un peu comme ça. Voilà. Non, vous restez fixe là au milieu, sinon ça va pas faire. Hein. C'est pas Titanic, hein, d'accord ? Ok, on y va. Alors, voilà, alors vous agitez un peu les bras pour montrer que vous êtes très nombreux, voilà. Agitez, non pas les jambes, les bras. Les jambes, on verra plus tard. Donc les bras, parfait, très bien comme ça. Alors lancez les trucs en l'air pour, allez, pour manifester, hein, des flyers, des papiers, des strings, ce que vous avez sous la main. Et alors ce qu'il faudrait faire, c'est un super beau sourire pour montrer qu'on est, on y croit. Ah non, pas les gilets jaunes, j'en parlerai après. Non mais on en parlera après si vous voulez, mais pour l'instant pas. Donc levez les bras en l'air, si, on va tous sourire, et il y a un mot qui marche bien pour sourire, c'est le mot syphilis. Non, je vous assure que ça fonctionne. On pense pas ce que ça veut dire, on pense juste au son, parce que syphilis, t'es obligé d'ouvrir les lèvres, si je peux me permettre. Et on essaye syphilis, 1, 2, 3.
Syphilis.
Vous voyez que ça marche. En plus, c'est pas une vidéo, on peut y aller. Bon, attention. Alors, on est prêt, on agite les bras, on est super heureux, un truc en l'air, on prépare, attention, 1, 2, 3.
Syphilis.
Voilà. Ah, c'est une vidéo. Bon. Parfait. Bon, donc ça, c'est un truc super positif. Alors, un truc positif sur le réchauffement climatique. Ben, moi, perso, par exemple, je déteste Bart De Wever et la NVA, hein, parce que c'est quand même un parti qui veut la fin de la Belgique. En plus, il n'est pas gentil avec nous. Il dit que des choses méchantes sur les Wallons et les francophones. Hein, parce que si tu n'écoutes que De Wever, tu finirais par croire qu'au Nord, ils vivent comme dans Dallas et nous comme dans Germinal. Si tu écoutes De Wever, tu finirais par croire que la Flandre... Que la Flandre, c'est Win for Life, et que nous, c'est Cap 48. Si t'écoutes De Wever, tu finis par croire que Anvers, ben, c'est la Silicon Valley, et Charleroi, Silicon Carnet. Bon, donc, et donc, je me dis, c'est super, parce que finalement, nous, on n'a rien à faire, les francophones, il n'y a qu'à attendre.
Il va être
la montée des eaux. Et un jour, De Wever et la NVA, on parlera d'immersion linguistique. Bon alors, j'ai essayé d'être positif. Donc je vais remettre des prix à des gens qui œuvrent pour le bien-être de la planète et qui font tout pour que demain aille mieux. Alors, prime pour l'homme qui favorise le plus l'usage des énergies fossiles. Daniel Baclen. Il repousse l'âge de la retraite jusqu'à... Pouf ! Magnifique. Prime pour l'énergie hélioïenne. À Di Rupo, qui brasse pas mal d'air depuis pas mal d'années et fait tourner son EPAP comme une éolienne. Alors, prime pour ceux qui valorisent le circuit court. Eh bien, les gilets jaunes. En effet, le week-end dernier, 300 000 personnes ont pratiqué le circuit court. Pas de syndicat, pas de parti politique, directement avec le président français, sans intermédiaire. C'est donc le circuit court. On va me dire, qu'est-ce que j'en pense des gilets jaunes? Eh bien, écoutez, à quoi ça sert de pouvoir rouler, de faire le plein de sa voiture si pour aller droit dans le mur d'un monde qui étouffe et qui va mourir? Vivre ou rouler, que faire? Eh bien, la réponse est Sartre, Jean-Paul Sartre qui la donne. L'existence précède l'essence. Et alors, la prime à la meilleure isolation attribuée à Donald Trump. Oui, il faut l'isoler. C'est terrible. Bah, je sais pas, mais Trump, je sais pas où le placer. Non pas par rapport à Obama, Bush, Reagan, non, c'est facile. Non, je sais pas où le placer par rapport au schéma de l'évolution de l'homme. Vous voyez le schéma? Avec les singes avant nous et les microcorps, je sais pas où le placer. En fait, Trump, c'est le chaînon manquant. Mais le chaînon manquant à personne. Ni aux Mexicains, ni aux musulmans, ni aux femmes, et je ne vous parle pas des femmes mexicaines musulmanes. Voilà, mesdames, messieurs, je reviens tout à l'heure pour être encore plus positif que maintenant, et je laisse la parole à François, alors encouragez-le.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Bruno Coppens pour cette introduction. Et je suis navré de devoir nous faire redescendre sur Terre, même si je suis très heureux, sincèrement, de vous voir aussi nombreux. Et je le répéterai à plusieurs reprises à quel point la mobilisation des aînés sur cette question du climat est importante. Ce que je vous propose au cours de ces trois quarts d'heure, c'est d'essayer de vous montrer à quel point, au-delà d'être un enjeu environnemental, le changement climatique est aussi un enjeu politique avec d'énormes conséquences économiques, sociales et politiques, en particulier pour les populations les plus vulnérables qui habitent sur cette planète. Et donc, trop souvent, on va avoir tendance à considérer que le climat est une question un peu technique, environnementale, à réserver aux spécialistes et aux scientifiques qui apporteront des solutions techniques et technologiques. Et très souvent, on a essayé d'isoler la question du climat des grands enjeux politiques de notre temps. Ce que je voudrais essayer de vous montrer ce soir, c'est à quel point la question du climat, c'est la matrice des grands enjeux politiques de notre temps et à quel point toutes les questions fondamentales qui traversent nos sociétés, les questions de développement, les questions de pouvoir d'achat, les questions de migration, les questions de sécurité, combien toutes ces questions sont déjà déterminées par la question du climat et le seront encore davantage à l'avenir. Avant de commencer, je voudrais que vous passiez quelques instants sur cette publicité parue dans un magazine que certains d'entre vous ont peut-être connu, le magazine Life, en 1962. 1962, c'est l'époque où certains d'entre vous, j'imagine, batifolaient dans les champs ou s'encanaillaient dans les tripots. C'est l'époque où les Beatles sortaient Love Me Do. Et c'est l'époque où on pouvait faire des blagues sur la fonte des glaciers. La publicité que vous voyez à l'écran est une publicité pour une compagnie pétrolière qui s'appelait Humble. Et la publicité proclame chaque jour, Humble fournit suffisamment d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. En 62, on pouvait faire des blagues sur ça. C'était un sujet de plaisanterie. on ne se tracassait pas vraiment du changement climatique. Les scientifiques étaient déjà au courant et avaient commencé à mesurer l'élévation des températures et de la concentration des gaz à effet de serre. Mais le grand public restait largement ignorant de ces questions. Et donc, ça pouvait être un sujet de blague dans les publicités. Et c'est comme ça que, à leur insu, les publicitaires de Humble ont créé une des rares publicités non mensongères. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et si je vous la montre, c'est parce que 1962, c'est une année que j'imagine pas mal d'entre vous ont connue. C'est une année qui correspond au début de ce qu'on a appelé les Golden 60s, c'est-à-dire une décennie marquée par une illusion de croissance infinie, que cette illusion touche à la croissance économique ou à la croissance démographique. Ce sont les années du baby boom, ce sont des années relativement insouciantes, ce sont des années où toute une série de biens de consommation autrefois réservés aux classes supérieures deviennent accessibles aux classes moyennes. C'est là que les classes moyennes commencent à pouvoir se payer des appareils électroménagers, des voitures, à prendre l'avion, et c'est logiquement aussi l'âge d'or de la publicité. Et c'est aussi une décennie où on va accélérer nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on le paye une cinquantaine d'années plus tard. L'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre depuis l'invention du thermomètre. Ce record de 2014 a été battu en 2015. Ce record de 2015 a lui-même été battu en 2016. 2017 a fait presque aussi bien, mais s'est contenté de la deuxième place ex aequo. On n'a pas encore les données définitives pour 2018, mais je peux déjà vous dire que le mois d'octobre 2018 a été le deuxième mois d'octobre le plus chaud dans l'histoire de l'humanité. Et donc on l'a très bien vu tout à l'heure avec les courbes que Cathy a présentées, on le voit de la même façon sur ces vignettes qui représentent globalement les anomalies de température sur Terre depuis les années 1850. Chaque vignette correspond à une année. Les anomalies de température à la baisse sont signalées en bleu, les anomalies de température à la hausse sont signalées en rouge. Et vous verrez très très facilement qu'il y a une sorte d'accélération du phénomène à partir de la fin des années 90 et que désormais on est systématiquement dans des années rouges. Si je mets en parallèle cette publicité de Life Magazine en 1962 et ces records de température que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il s'écoule un laps de temps d'environ deux générations entre nos émissions de gaz à effet de serre et les impacts du changement climatique. En d'autres termes, les impacts du changement climatique dont nous faisons l'expérience pour le moment ne sont pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais des émissions produites par nos parents et nos grands-parents. Les émissions de gaz à effet de serre que vous avez produites en 1962, eh bien, nous en subissons le résultat maintenant. Et comme nos émissions de gaz à effet de serre, depuis, n'ont pas cessé d'augmenter, ça veut dire que les impacts du changement climatique vont empirer au cours des 50 prochaines années. C'est quasiment déjà coulé dans le marbre. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais ça a évidemment un côté un peu désespérant de penser que la situation va aller de mal en pis au cours des 50 prochaines années et que malgré toutes les grandes résolutions, les grandes conférences de l'ONU, les grandes déclarations et les efforts que beaucoup d'entre nous ont déjà entrepris, et y compris les sacrifices qui ont déjà été consentis, ça n'améliorera la situation que d'ici une cinquantaine d'années environ. C'est-à-dire quand une partie d'entre nous sont morts, sont réalistes, et les autres seront très vieux. C'est pas forcément extraordinairement motivant. C'est pour ça qu'il y a un véritable enjeu intergénérationnel sur cette question. C'est parce que les efforts que nous entreprenons aujourd'hui, ce seront nos petits-enfants qui en tireront les bénéfices. Évidemment, c'est déjà pas très encourageant au niveau individuel. Au niveau politique, c'est évidemment encore pire, puisque l'essentiel des pays qui doivent entreprendre des actions radicales pour réduire leurs émissions sont des pays industrialisés. C'est-à-dire pour beaucoup des démocraties. C'est-à-dire des régimes politiques où la durée du mandat est relativement courte, de 4 à 6 ans, le double si vous vous faites réélire. Ça veut dire qu'aucun dirigeant ne pourra dire à ses électeurs à la prochaine élection « Je vous ai demandé de faire des efforts pour réduire nos émissions, j'ai mis en place une taxe carbone, j'ai augmenté le prix de l'essence si vous n'avez pas été content et vous avez manifesté avec des gilets jaunes, mais regardez, ce sont des mesures qui ont porté leurs fruits parce que ce que verront les gens, c'est que la situation a empiré. » Et donc, si ce n'est pas très motivant pour un individu, c'est encore moins motivant pour un dirigeant qui doit bien entendu chercher à se faire réélire d'ici 4, 5 ou 6 ans. Un autre problème bien connu en psychologie, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire quelque chose et que vous observez exactement l'inverse de ce qui était attendu. On vous demande de faire des efforts et de réduire vos émissions et vous voyez que la situation empire et donc vous avez l'impression que vos efforts ne servent à rien parce qu'il y a ce décalage générationnel. Les impacts du changement climatique, comme je le disais, sont connus à peu près pour les 50 prochaines années. Essayons de les passer en vue. Je vous préviens, ça ne va pas être folichon. Hein. Je promets de terminer sur une note positive et optimiste. La première conséquence de l'élévation des températures, c'est évidemment que la glace fond. Les glaciers de montagne, mais également les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Alors ce graphe a l'air très très compliqué, mais en réalité, il est très très simple. Vous voyez sur le graphe, la masse totale de glace combinée dans l'Arctique et dans l'Antarctique, mesurée depuis 1978 au cours des différents mois de l'année. Et donc forcément, il y a plus de glace pendant nos mois d'été qui correspondent à l'hiver en Antarctique. Vous voyez que les courbes, globalement, se suivent et se ressemblent jusqu'à l'année 2016. Et là, vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en mathématiques des graphes pour réaliser qu'à partir de 2016, il se produit un décrochage tout à fait inquiétant. Et ce décrochage, c'est dû à l'accélération de la fonte des glaces en Antarctique, qui bien entendu va provoquer l'élévation du niveau des mers. L'élévation du niveau des mers est le résultat de deux phénomènes essentiellement concomitants. La fonte des glaciers de montagne et des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique, c'est-à-dire la fonte de la glace qui se trouvait sur Terre et qui en fondant va ajouter de l'eau aux océans, et ce qu'on appelle le réchauffement thermique des océans, un simple phénomène physique qui fait que lorsque l'eau se réchauffe, elle occupe plus d'espace. À la COP21, on s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait absolument limiter la hausse de température à 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est le niveau d'élévation de la température qu'on a jugé acceptable par rapport aux efforts qui devraient être consentis pour arriver à ce résultat. Le problème, c'est que nous ne sommes pas du tout sur cette trajectoire. Il y a aujourd'hui 17 pays dans le monde seulement qui respectent les engagements pris en 2015 lors de l'accord de Paris. L'accord de Paris combine toute une série d'engagements déclaratifs et seuls 17 pays les respectent aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 10% des signataires de l'accord de Paris. aucun pays de l'Union européenne, même pas la si vertueuse Belgique, ne respecte les engagements pris dans l'accord de Paris. La Belgique est même complètement en dehors des clous. Et donc le résultat, c'est que si l'on extrapole la courbe de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est un scénario d'élévation d'au moins 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Prenons un moment pour réfléchir à ce que ça veut dire. Lorsque je terminais ma thèse de doctorat, j'avais assisté il y a un peu moins de 10 ans, en 2009, à un colloque à l'université d'Oxford. Et ce colloque portait sur le sujet suivant, les effets du changement climatique à plus 4 degrés. Et ce colloque, à l'époque, était considéré comme un truc tout à fait expérimental. On allait, comme disent les Anglais, repousser les limites de la science et tester jusqu'à quel point les modèles informatiques pouvaient prévoir ce qui se passerait si jamais, on arrivait à 4 degrés. Et l'atmosphère générale du colloque était une atmosphère d'expérimentation intellectuelle. Personne dans l'Assemblée n'imaginait qu'un jour, ce scénario de 4 degrés pourrait être un scénario réaliste. On faisait simplement de la science pour la science, on poussait les modèles jusque dans leurs limites. Tout le monde considérait que le scénario de 4 degrés, c'était un scénario de science-fiction. Nous sommes aujourd'hui moins de 10 ans plus tard, et une majorité de climatologues estiment aujourd'hui que c'est le scénario le plus probable. Ce n'est pas juste les associations de défense de l'environnement qui le disent, ce n'est pas juste Greenpeace ou le WWF ou la Coalition Climat. Ce sont des institutions comme la Banque mondiale qui, a priori, ne sont pas connues pour être les plus écolos du monde. Et donc, si on reste sur ce rythme, qui est le rythme actuel aujourd'hui, il va y avoir deux grands leviers qui vont basculer de l'autre côté. Le passage de 2 à 4 degrés, ce n'est pas juste une multiplication par 2 des impacts. Ça serait trop facile. Il y a deux curseurs qui changent de dimension. Le premier curseur, c'est le curseur de l'habitabilité de la planète. Aujourd'hui, on habite à peu près partout sur Terre. L'espèce humaine a colonisé à peu près tous les espaces de la planète. La nature n'existe plus. Partout, la nature est devenue environnement, c'est-à-dire une nature balisée, cartographiée, avec des sentiers, des aires de jeu et des aires de pique-nique. Si l'on passe à 4 degrés, ça veut dire que plusieurs régions du monde vont devenir littéralement inhabitables, impropres à la vie humaine. Soit parce qu'elles seront inondées, soit parce que toute forme d'agriculture y sera devenue impossible, soit simplement parce qu'il y fera trop chaud, que la température dépassera, et de loin, les 50 degrés Celsius, qui est, de l'avis des médecins, un peu la température limite que le corps humain peut supporter pendant de longues périodes consécutives. L'été dernier, à Phoenix, en Arizona, la température a atteint 49 degrés Celsius. À Dhaka, au Bangladesh, elle a atteint 51 degrés Celsius, au point que ceux qui tiennent les ateliers de manufacture de vêtements où les enfants sont payés 1 $ par mois ont dû mettre en congé leurs employés parce que les employés défaillaient sous l'effet de la chaleur. Et au Koweït et en Iran, on atteignait des records à 53 ou 54 degrés Celsius. Si plusieurs régions du monde deviennent littéralement inhabitables, cela veut dire qu'il va falloir relocaliser des milliers, des millions de personnes qui habiteront dans des régions où il sera désormais devenu impossible de vivre. Heureusement, l'Europe a une solide expérience en la matière. Lorsqu'il s'est agi de relocaliser quelques milliers de réfugiés syriens qui fouillaient les bombes et une situation désespérée, on a vu à quel point l'Europe s'est mise en ordre de marche, à quel point la relocalisation a été parfaitement organisée et à quel point il y a eu une sorte de concorde européenne qui a permis, en l'espace de quelques jours, de parfaitement répartir 250 000 de ces réfugiés à l'intérieur d'un continent de 500 millions d'habitants. Que sera-ce lorsque nous devrons discuter au niveau mondial de la relocalisation de plusieurs millions de personnes? L'autre curseur qui va basculer à 4 degrés, ou qui risque de basculer à 4 degrés, c'est le curseur des seuils de rupture, ce qu'on appelle en anglais les tipping points. Une des raisons pour lesquelles on a choisi les 2 degrés comme la limite, c'est parce que jusqu'à 2 degrés, les scientifiques pouvaient garantir, avec un haut niveau de certitude, que ces tipping points ne seraient pas atteints. Qu'est-ce que c'est ces tipping points, ces seuils de rupture? Ce sont ces moments où le climat va atteindre un seuil qui va le faire basculer dans un état complètement différent et irréversible. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce film « Le jour d'après » qui simulait un changement majeur dans le Gulf Stream, ce courant marin qui permet de garder les États-Unis et l'Europe à température modérée, et donc qui plongeait les États-Unis dans un nouvel âge glaciaire. Tout le monde avait dit « Ha ha, quel film de science-fiction catastrophe !» Ce film simulait ce qui arriverait si l'un des tipping points était atteint, c'est-à-dire une modification, une altération des courants marins. Mais le seuil de rupture qui inquiète le plus les scientifiques aujourd'hui, c'est la possibilité que les calottes polaires arctiques ou antarctiques fondent complètement. La calotte polaire arctique, globalement, c'est la glace qui se trouve au Groenland. Si toute cette glace fondait, alors on estime que la hausse du niveau des mers serait comprise entre 6 et 7 mètres. Ça veut dire que la carte de l'Europe ressemblerait à ceci.
Une carte de Belgique montre la disparition d'une majeure partie de la Flandre. Bruxelles est en partie sous eau.
Bien sûr, il y aurait une certaine satisfaction un peu mesquine à voir Théo Franken demander l'asile en Wallonie. Et Venise se visiterait sous l'eau, la crise en Crimée trouverait une résolution immédiate, toute une série d'avantages pour l'Europe. Ce scénario, bien entendu, n'a aucune chance d'advenir. Non pas que la calotte polaire arctique n'ait aucune chance de fondre, mais simplement parce que les gouvernements européens prennent déjà toute une série de mesures pour lutter contre la hausse du niveau des mers. Le gouvernement néerlandais dépense déjà des milliards d'euros pour renforcer son plan Delta, qui est le plan de lutte contre les inondations. La municipalité de Londres vient de décider aussi de renforcer la barrière sur la Tamise, qui protège Londres des inondations. Vous aurez peut-être vu que le gouvernement flamand, en Belgique, avait commandé une étude de faisabilité pour la création d'une île artificielle au large de la côte pour protéger les plages d'Ostende et de Nieuport des tempêtes. Tout ça est évidemment nécessaire. Le vrai problème, c'est ce qui se passerait là-bas.
La carte montre les pays de l'Asie.
C'est sur cette carte qu'habite la majorité de la population mondiale.
Une part très importante de l'Inde a disparu.
Il y a plus de gens qui habitent sur cette carte que partout ailleurs dans le monde. Et là, vraisemblablement, les gouvernements n'auront pas les moyens d'investir des milliards dans la construction de barrages, de digues, d'écluses. Regardez ce qui arriverait à un pays comme le Bangladesh, dont la capitale Dhaka sera dans 10 ans la ville la plus peuplée du monde. Regardez ce qui arrive à une zone très peuplée comme la zone comprise entre Pékin et Shanghai. Nous n'y sommes pas encore. D'abord parce que nous avons encore la possibilité, heureusement, d'éviter les 4 degrés, et parce que les scientifiques ne savent pas encore prédire aujourd'hui avec exactitude à quel moment les seuils de rupture seraient atteints. C'est un des grands enjeux scientifiques, notamment pour le prochain rapport du GIEC, c'est d'essayer de définir avec davantage de précision quels sont les risques d'atteinte de ces fameux seuils de rupture, de ces tipping points. Mais en même temps, nous commettrions une grave erreur en méconnaissant ces risques. Ce qui nous pose immédiatement la question politique, cette fois, qui est responsable de toute cette affaire ? Si on veut regarder la manière dont on voit classiquement les choses, on va agréger toutes les émissions de gaz à effet de serre d'un pays sur une année donnée, et on va dire que la Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, suivi des États-Unis, suivi de l'Inde, suivi de la Russie, du Japon, de l'Allemagne, etc., etc. Et c'est généralement le classement qu'on va établir. J'en profite au passage par rapport à un argument qu'on entend souvent et qui consiste à dire « Ouais, mais tout ça, c'est la faute de la démographie et tout ça, c'est la faute de l'explosion démographique en Afrique. » Sérieusement ? Regardez la Chine et l'Inde qui ont des populations relativement comparables. La Chine émet 4 ou 5 fois plus de gaz à effet de serre que l'Inde. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette manière de présenter les choses et tout le monde n'est pas d'accord avec cette manière de définir la responsabilité. Et d'aucuns disent qu'il serait beaucoup plus équitable de définir la responsabilité non pas par pays, mais en fonction des habitants. En d'autres termes, de calculer les émissions par habitant plutôt que par pays. Si on fait ça, le pays qui doit être considéré comme le plus responsable, c'est le Qatar, suivi des petits États du Golfe, suivi des paradis fiscaux, suivi enfin des États-Unis, du Canada et de l'Australie à peu près sur le même pied, et suivi beaucoup plus loin de l'Europe et de la Chine. De façon intéressante et significative, un citoyen chinois émet aujourd'hui à peu près la même quantité de gaz à effet de serre qu'un citoyen européen. Ça peut paraître plus équitable de considérer les choses comme ça, mais ça gomme aussi les différences de classe sociale à l'intérieur d'un pays. Avec ce genre de calcul, un clochard à New York est considéré comme plus responsable du changement climatique qu'un milliardaire à New Delhi. Ça pose d'autres problèmes. Et aujourd'hui, un des grands problèmes au niveau international dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est que chacun va essayer de rejeter la responsabilité sur l'autre. Et la grande réussite de l'accord de Paris, c'est que cet accord, quelque part, sortait de ce schéma de responsabilité pour passer à un schéma de capacité. En d'autres termes, on n'allait plus répartir l'effort en fonction de la responsabilité des uns et des autres parce que cette responsabilité était contestée. On allait répartir l'effort en fonction de ce que chacun était prêt à faire et y avait les moyens de faire. Et c'est cela qui a permis que soit signé l'accord de Paris. Le problème, bien entendu, c'est que ça crée aussi une grande fragilité de l'accord, puisque l'accord repose finalement sur les bonnes intentions des uns et des autres et sur les déclarations que font les États. L'accord de Paris repose sur le pari que Hillary Clinton aurait été élue à la place de Donald Trump ou que Donald Trump aurait respecté les promesses de son prédécesseur. Le problème de l'accord de Paris, c'est qu'il est très vulnérable aux aléas politiques. Pourtant, quand on regarde les conséquences pour la société, y compris pour les pays qui aujourd'hui renâclent à mettre en œuvre leurs promesses, on constate que tous les grands enjeux de notre temps sont concernés. La question de la sécurité, en premier lieu. En 2007, le GIEC et Al Gore ont conjointement reçu le prix Nobel de la paix, manière pour le comité Nobel de reconnaître officiellement à quel point le changement climatique représentait une menace pour la sécurité et la stabilité dans le monde. Et effectivement, si l'on regarde les corrélations historiques, on observe assez systématiquement une très forte corrélation entre les variations de température de pluviométrie et l'occurrence de conflits. Vous voyez ici, par exemple, mise en relation des anomalies de température relativement limitées en Afrique subsaharienne. On parle ici d'anomalies d'un demi degré. Et vous voyez que ces anomalies correspondent tout de suite à des pics d'occurrence de guerre civile. Simplement parce qu'en Afrique subsaharienne, la moitié de la population dépend de l'agriculture de subsistance pour sa survie et que c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable aux variations de la température ou de la pluviométrie. Et que donc, dès qu'il y a la moindre variation, les gens perdent leurs ressources économiques. Il va généralement y avoir toute une série de conflits parfois localisés sur la question des terres ou la question des ressources naturelles. Alors, corrélation ne veut évidemment pas dire causalité. Et on observe cette corrélation, y compris dans les pays industrialisés, de façon assez stupéfiante ici. Vous avez une corrélation entre les variations de température aux États-Unis et les statistiques de criminalité du FBI. On peut dire que aux États-Unis, lorsqu'il fait plus chaud, les gens se tuent davantage les uns les autres. Il y a évidemment des explications sociologiques à cela. Lorsqu'il fait plus chaud, les gens passent davantage de temps à l'extérieur de chez eux et donc multiplient les interactions sociales. Et comme il y a aux États-Unis un nombre incalculable d'armes à feu en circulation, lorsque ces interactions sociales ne se passent pas comme elles devraient, bien parfois ça fait des morts, pour le dire platement. C'est évidemment donc aujourd'hui un enjeu de sécurité. De plus en plus, les ministères de la Défense mettent en place des organismes de surveillance des enjeux climatiques parce que ça a un impact immédiat pour les opérations des forces militaires, en particulier des forces militaires à l'étranger. Pour certains pays, c'est carrément un enjeu de survie. C'est le cas évidemment des petits États insulaires comme Tuvalu, ou comme les Maldives, qui sont directement menacés par la hausse du niveau des mers. Ce sont des États dont le point culminant se situe généralement à 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc ça veut dire que toute élévation du niveau de la mer, même une élévation modérée comme 1 mètre, c'est ce qu'on aura dans le scénario très optimiste où on parvient à respecter les 2 degrés de l'accord de Paris, même dans le scénario le plus optimiste, une série de ces pays risque de perdre des quantités considérables de territoire. Et si on passe au-delà du seuil de 2 degrés, à ce moment-là, on peut vraisemblablement s'attendre à une hausse du niveau des mers de l'ordre de 1,5 m ou 2 mètres d'ici 2100. C'est une question tout à fait nouvelle dans le droit international. Le droit international connaît de la disparition politique de certains États. La Tchécoslovaquie hier, peut-être la Belgique demain. Le droit international, par contre, ne connaît pas du tout la disparition physique de certains États. Que devient un État dans le droit international s'il en venait à perdre son territoire? Pour le moment, on n'a pas de réponse à cette question. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé. Est-ce qu'il s'agit de créer un État virtuel, délié de la notion de territoire? Mais ça veut dire que ça permettrait, par exemple, au club des 20 milliardaires les plus riches de la planète de créer leur propre État et d'abolir tout impôt à l'intérieur de cet État, s'ils n'ont plus besoin de territoire. Ou alors, est-ce qu'il faut déplacer les populations de ces pays et créer un autre État à l'intérieur d'États qui existent déjà, et vous voyez d'ici les problèmes que cela poserait également. Le changement climatique est déjà devenu aujourd'hui une cause majeure de migration et de déplacement de population dans le monde. Et souvent, on imagine que cette question se réduit à la question des petits États insulaires, qui sont en réalité simplement l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on peut dire que les dégradations de l'environnement, dont un nombre considérable, sont imputables au changement climatique, sont une des premières causes de migration et de déplacement dans le monde. Chaque année, 25 millions de personnes sont déplacées à la suite des seules catastrophes naturelles, c'est-à-dire des dégradations brutales de leur environnement. Et 86% de ces catastrophes dites naturelles sont des catastrophes liées à des changements hydroclimatiques, c'est-à-dire qu'on parle d'inondations, on parle de sécheresses, on parle d'ouragans ou de tempêtes. 25 millions de personnes par an, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées par des guerres ou par des violences chaque année. Et ce nombre va évidemment aller en s'amplifiant. Sans compter qu'à ce nombre, il faut évidemment ajouter tous ceux qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, et notamment la dégradation des sols et les variations de la pluviométrie qu'on observe notamment en Afrique subsaharienne. Une partie non négligeable de ceux qui arrivent aujourd'hui sur les côtes européennes et qu'on va appeler migrants économiques, nous pourrions tout aussi bien les appeler des migrants environnementaux ou des migrants climatiques. Lorsqu'on sait que l'agriculture de subsistance représente la principale source de revenus d'une moitié au moins de la population d'Afrique subsaharienne, il est évident que les variations de pluviométrie ou de température vont priver les gens de leurs revenus et vont donc les amener à devoir migrer à la recherche d'autres revenus. C'est une vue très occidentale que celle qui va consister à séparer l'environnement et l'économie comme si c'était deux choses différentes. Pour la majorité des gens qui habitent sur Terre, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. Pour vous ou pour moi, l'argent que vous avez sur votre compte en banque à la fin du mois ne va pas dépendre du temps qu'il a fait au cours du mois écoulé. Mais pour la plupart des gens sur cette planète, les ressources dont ils disposent vont être directement liées à la température ou à la pluviométrie. Et donc l'environnement et l'économie, c'est en réalité la même chose pour une majorité des gens. Et puis il y a bien entendu la question des territoires. J'ai évoqué l'hypothèse très optimiste où nous parviendrions à respecter la limite de l'accord de Paris et donc où nous parviendrions à limiter la hausse du niveau de la mer à 1 mètre. Même dans cette hypothèse très optimiste, un pays comme le Vietnam perdrait 26 000 km carrés. 26 000 km carrés, c'est l'équivalent de 10% de la superficie du Vietnam. Et comme le Vietnam est configuré comme une très longue côte, il sera très vraisemblablement impossible au gouvernement vietnamien d'ériger une immense digue sur la totalité de cette côte. Et donc, ce que fait déjà aujourd'hui le gouvernement vietnamien, c'est simplement déplacer des populations. Il y a quelques années, le gouvernement a mis en place un programme qui s'appelle « Living with Floods », vivre avec les inondations, qui vise à déplacer des centaines de villages depuis le delta du Mekong vers les collines. En d'autres termes, le gouvernement vietnamien ne s'est pas posé de questions. Il a déjà acté le fait que pour le delta du Mekong, c'était fini, c'était terminé et qu'il fallait commencer à faire déménager les gens manu militari. À travers l'histoire, la quasi-totalité des conflits ont été menés autour de la question du territoire. Qu'il s'agisse de défendre son territoire ou de conquérir de nouveaux territoires. Et on est ici face à une situation où un pays pourrait perdre jusqu'à 10% de son territoire. On se rend bien compte qu'à un moment donné, les pays qui perdront ce territoire risquent de demander des comptes aux pays qu'ils considèrent comme responsables. La hausse du niveau des mers, on imagine souvent que c'est un problème relativement lointain et distant auquel on aura largement le temps de faire face en temps voulu. Je veux vous montrer la rapidité du phénomène, notamment grâce à des recherches qu'on a menées à Cotonou, au Bénin. Donc vous voyez ici un quartier de la banlieue de Cotonou. Je suis désolé pour ceux qui nous écouteront à la radio parce qu'ils ne se rendront pas compte de l'accélération, mais il faut bien qu'il y ait un intérêt à venir physiquement à la conférence. Vous voyez ici, à l'image, le trait de côte à Cotonou en 2002.
Une vue aérienne montre des quartiers construits non loin de la mer. La largeur de l'image représente environ 2 km.
Le voici en 2004.
La mer gagne sur les terres.
En 2011.
Des dizaines d'habitations ont disparu.
Et en 2013.
Les trois quarts des habitations ont disparu.
Il s'est écoulé 9 ans entre les images et vous voyez déjà les quartiers qui ont été détruits à cause de la hausse du niveau des mers et de l'érosion côtière. Et ceux que le gouvernement béninois a déjà rasés en anticipation de futures inondations. Et donc face à cela, et c'est par là que je terminerai, la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'au fond il est si difficile d'agir ? Pourquoi est-ce qu'on en fait encore, malgré toutes nos bonnes intentions, pourquoi est-ce qu'on en fait encore si peu ? Parce qu'il y a trois problèmes fondamentaux. Le premier problème fondamental, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce même pays. Il y a une grande injustice géographique qui fait que les pays qui seront les premiers et les plus durement touchés, ce sont les pays en développement dont la responsabilité dans le problème est infinitésimale. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre émises par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par cette génération. À l'injustice géographique se superpose une injustice générationnelle. Ceux, comme je l'ai dit en début d'exposé, qui seront les plus affectés par nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la génération de petits-enfants. Et ces deux problèmes pose la question du changement climatique véritablement comme un problème moral. Sommes-nous capables d'agir non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont situés au-delà de nos frontières, que ces frontières soient géographiques ou générationnelles ? Sommes-nous capables d'agir pour des gens que nous ne connaissons pas et que nous ne rencontrerons peut-être jamais ? Et ça nous renvoie à la manière dont nous allons définir notre propre place sur la planète. Est-ce que nous allons nous considérer comme citoyens d'une même humanité ? Ou est-ce que nous allons nous considérer comme membres d'un pays, d'une famille, d'une caste ? En d'autres termes, est-ce que nous allons reconnaître l'autre que nous ne connaissons pas comme une partie de nous-mêmes ? Ou est-ce que nous allons le considérer comme un étranger vis-à-vis duquel nous n'avons aucune responsabilité ? C'est la grande question morale que nous pose le changement climatique. Et puis, il y a une troisième raison, beaucoup plus prosaïque, qui tient au fait simplement qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout simplement que rien ne change. Et je ne parle pas uniquement des climato-sceptiques, mais je parle de toute une série de gens dont le mode de vie, d'entreprise dont le business model est profondément ancré dans l'économie des énergies fossiles et pour qui, effectivement, la lutte contre le changement climatique va représenter un sacrifice financier ou va représenter un coût. Et parfois, nous nous laissons bercer par l'idée de la transition énergétique ou écologique comme s'il y allait avoir une sorte de mouvement naturel où tout le monde serait gagnant et où tout le monde embrasserait l'économie à bas carbone. La réalité, c'est que si nous voulons sortir de l'économie des fossiles, il va y avoir un certain nombre de ruptures qui seront nécessaires avec des modèles du passé et que ces ruptures se feront avec des coûts et avec aussi parfois de la casse. Et que donc le concept de transition en réalité est très trompeur en nous laissant croire qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané. Ce mouvement n'a rien de naturel ni de spontané parce que beaucoup vont s'accrocher au monde ancien et se battront avec la dernière énergie pour préserver les avantages que leur procure ce monde ancien. Et Donald Trump a parfaitement compris cela. Il y a néanmoins, et c'est la petite note d'optimisme de fin d'exposé, il y a néanmoins un tournant décisif qui s'est produit en 2015, qui est la COP21 et l'accord de Paris. Cet accord, bien sûr, a ses faiblesses. Cet accord, bien sûr, n'est pas parfait. Mais il constitue un point de départ fondamental. C'est un accord qui donne un sens à l'histoire dans les deux acceptions du terme. C'est-à-dire qu'il lui donne à la fois une signification et une direction. Et je crois que nous devons voir l'accord de Paris comme une balise, comme un repère qui nous indique ce sens de l'histoire et qui nous indique que toutes les actions et toutes les politiques que nous pourrions mener et qui nous conduiraient à dépasser ce seuil de 2 degrés sont des actions, sont des politiques à contresens de l'histoire. Et que quelque part, nous commettons une faute morale si nous poursuivons dans cette voie parce que nous mettons en danger l'existence des plus vulnérables parmi nous. Et je crois que c'est très, très important de réaliser cela et de réaliser que l'accord de Paris est en quelque sorte une mise à jour de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est écrit dans un style beaucoup plus alambiqué, c'est beaucoup plus long et je doute que beaucoup impriment l'accord de Paris et l'encadrent sous verre dans leur bureau. Mais c'est exactement, à mon sens, le même sens qu'il faut lui donner. Nous savons bien entendu que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Que tous les jours, ces droits sont violés, bafoués dans à peu près tous les pays. Mais néanmoins, cette Déclaration universelle des droits de l'homme représente une forme d'idéal à atteindre. Et je crois que c'est exactement comme cela que nous devons aussi considérer l'accord de Paris, qui est un point de départ, et non pas une ligne d'arrivée, comme le croient aujourd'hui beaucoup trop de gouvernements qui voudraient simplement passer le relais à la société civile, comme si le job des gouvernements était terminé. Et je crois que ce point de départ, c'est celui qui fait entrer le climat comme enjeu politique. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont se mobiliser sur l'enjeu politique du climat. C'est pour ça qu'il est fondamental que la marche du 2 décembre à Bruxelles soit un énorme succès populaire pour montrer au gouvernement que les gens considèrent qu'il y a là un enjeu politique fondamental et que ce n'est pas juste une question technique à réserver aux spécialistes ou aux scientifiques, mais que les gens sont concernés par cet enjeu et en feront un déterminant de leur vote. Quelque chose qui est en train de faire basculer le débat en Allemagne aujourd'hui, c'est quand les sondages d'opinion montrent que le climat, aujourd'hui, est devenu une des principales préoccupations des électeurs allemands. C'est-à-dire que les gens vont plus juste voter en fonction de leur pouvoir d'achat, de la politique d'emploi ou de la politique d'immigration, mais vont voter en fonction des politiques climatiques. Et c'est cela, je crois, qui peut faire basculer les gouvernements, c'est de leur montrer que le climat est désormais devenu un enjeu politique sur lequel les gens sont prêts à se mobiliser, à manifester, à faire grève et surtout, surtout, à voter. Et je crois que l'enjeu fondamental aujourd'hui, et je me réjouis de voir que c'est quelque chose qu'on comprend de plus en plus et que les sondages d'opinion montrent aussi de plus en plus, c'est que le climat est en train de s'installer enfin, 25 ans trop tard, certes, mais enfin, comme un véritable enjeu politique, comme un problème politique. Et il y a trois enjeux autour de ça, et j'en terminerai par là. Un enjeu qui consiste à pouvoir poser la question en termes de choix collectif. Pendant trop longtemps, on a parlé du climat aux gens comme s'ils étaient simplement des consommateurs et comme s'ils allaient résoudre le problème climatique simplement en modifiant leur choix de consommation. C'est très important de rouler à vélo, c'est très important d'acheter des fruits et légumes en circuit court, c'est très important de rénover son habitation et de mieux l'isoler. Mais l'addition des comportements individuels ne suffira pas. Il faut aujourd'hui réfléchir à la question, non pas juste en termes de choix individuels, mais en termes de choix collectifs. Et on fera basculer la balance uniquement si on parvient à convertir nos choix individuels en choix collectifs, et ce sont ces choix collectifs qui seront déterminants. Et là où, quelque part, il y a une grande victoire du néolibéralisme, c'est que de plus en plus, les gens se sentent aliénés par rapport à ces choix collectifs. Ils vont se dire « Oh là là, mais ce sont que les trucs que font les gouvernements ou les banques et les grandes entreprises, et moi je n'ai aucune prise par rapport à ça. » Et c'est là où il y a un enjeu véritable de démocratie, c'est de pouvoir reconnecter les gens dans leurs choix individuels à leurs choix collectifs, que les gens puissent agir pour le climat, non pas juste en tant que consommateur, mais également en tant que citoyen. Deuxième enjeu, j'en ai parlé, la question de la repolitisation de la question climatique. C'est un enjeu de choix collectif fondamental. Si tout le monde est d'accord dans une sorte de consensus mou pour dire « oui, oui, il faut sauver la planète », ça veut dire qu'on ne fera jamais rien. Et ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de politiser cette question et de dire « voilà, ce sont des orientations fondamentales et des choix fondamentaux qui s'offrent aujourd'hui à la société. Et nous savons que ce sont des choix que nous devons prendre au cours des quelques prochaines années, sans quoi il sera trop tard. Et que si on reste dans ce consensus mou, où on va juste dire « il faut sauver la planète » et où personne ne va rien faire, eh bien ça veut dire qu'il ne se passera rien. Et le troisième enjeu qui nous concerne tous en tant que société, c'est la question de notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Thérèse Noy a évoqué ses petits-enfants en ouverture. C'est un élément extraordinairement important parce qu'aujourd'hui, nous savons à peu près à quoi ressemble le monde dont nous ne voulons pas. Le GIEC, les scientifiques, mais également les auteurs de science-fiction et les artistes ont fait des travaux considérables et remarquables pour nous montrer à quoi ressemblerait un monde ravagé par les impacts du changement climatique. Et les rapports du GIEC ressemblent beaucoup à Mad Max. Nous savons à peu près ce vers quoi nous ne voulons pas aller, nous savons à peu près ce que nous voulons éviter. Mais par contre, nous ne savons pas encore exactement ce que nous voulons mettre en face. C'est-à-dire quel est globalement le monde vers lequel nous souhaitons aller en 2050 ou en 2100, et quel est le chemin pour y arriver. Et c'est là, je crois, où toutes les composantes de la société doivent jouer un rôle, non seulement les scientifiques, mais également les artistes, les médias, les éducateurs et les citoyens dans leur ensemble, pour essayer de définir ensemble à quoi pourrait ressembler ce monde vers lequel nous voudrions aller, ce monde auquel nous aspirerions. Et je crois que c'est uniquement comme cela que nous pourrons transformer la lutte contre le changement climatique en un projet politique mobilisateur et pas seulement en une contrainte à laquelle nous souhaiterons échapper. Et c'est en tout cas ce que je nous souhaite collectivement. Merci beaucoup.
Bien. On va faire positif, les amis. J'ai pour vous quelques idées, quelques suggestions pour que la planète aille mieux. Quelques belles idées. La première, c'est augmenter votre empreinte écologique. Prenez l'avion. C'est un acte citoyen. Plus vous voyagerez rapidement, plus il y aura moins de pétrole. Plus vite le monde devra passer aux énergies renouvelables. Si vous voyagez fréquemment tous ensemble, vous aurez de votre vivant l'image d'un monde qui passera à l'éolien et au solaire. C'est pas beau ça. Je vous le dis, la vie est à consommer sans modération. Deuxièmement, remplacez votre chien par un 4x4. Est-ce que vous savez qu'un chien pollue plus qu'un 4x4? On ne le croit pas, ça. Mais il y a deux scientifiques américains, je ne dis pas que des conneries, j'en écris aussi, Brenda et Robert Wall, ont calculé l'empreinte carbone d'un chien. Savez-vous qu'un Doberman, par exemple, bouffe en moyenne 160 kg de viande par an? Plus de 90 kg de céréales. Si vous calculez la surface des pâturages, 43 mètres carrés de terre pour produire 1 kg de poulet par an. Celle des terrains pour planter les céréales, l'arrosage, le transport, l'abattage, les graines. Vous avez franchement intérêt à rouler en grosse voiture plutôt que promener votre chien le soir. Voilà. Troisièmement, achetez des poissons rouges et un bocal. Le poisson rouge oublie toutes les 6 secondes ce qui s'est passé avant. Et savoir que le monde renaît dans l'œil d'un poisson toutes les 6 secondes. N'est-ce pas un bel espoir pour tout le monde? Quatrième conseil, braquez la banque du sperme la plus proche de chez vous. Entrez cagoulé et après avoir menacé la secrétaire avec un pistolet en plastique, prenez le flacon de spermatozoïdes dans les frigos, ainsi que les Playboys sur la salle des tables, la salle d'attente. Sortez, courez vers la première rivière qui coule et jetez tout ce potentiel de vie. Il faut empêcher que des bébés naissent dans ce monde sans issue. Limitons les dégâts. Ensuite, relisez Sénèque qui disait « La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Sénèque, philosophe belge. Fabriquez votre cercueil végétal. L'homme n'est que poussière. Il faut qu'il retourne à la poussière. Faites un cercueil en bambou, par exemple. Un cercueil bio, aucun clou, pas d'agrafe, pas de produits chimiques. Ce cercueil aura l'allure d'un berceau. Berceau, cercueil, naissance et mort confondus. N'est-ce pas là une façon de résumer ce parcours chaotique qu'on appelle une vie ? Et bien sûr, léguez votre corps à la science. Moi, j'aimerais tellement léguer tout mon corps à la séance. Si chaque organe que je lègue peut réenchanter le monde et sauver la planète, je suis prêt à tout. Là, je suis prêt à léguer mes genoux à Bachar al-Assad pour qu'il plie enfin. Je suis prêt à léguer mes hémorroïdes à Erdogan pour qu'il ne puisse plus jamais s'asseoir sur son trône. Je suis prêt à léguer à Nicolas Hulot ma moelle pépinière. Je suis prêt à léguer à Théo Franken mes acouphènes, qu'il ait des migraines à migrer en Ukraine. Et je suis prêt à léguer à Vladimir, vous savez quoi ? Mon rhume chronique. Comme ça, à la télé, il devra dire « Je m'appelle Boudine ». Voilà, mesdames, messieurs, mes suggestions, mes conseils positifs pour un monde meilleur. Sachez que le 1er décembre, dans le journal Le Soir, vous pourrez peut-être lire ma lettre et celle d'autres chroniqueurs et écrivains belges. On est une vingtaine à avoir écrit une lettre à nos arrière-petits-fils. Voilà, vous lirez ça le 1er. Et bien sûr, le 2, vous n'avez pas piscine parce que vous avez climat. Mesdames, messieurs, merci beaucoup.
Grands-parents pour le climat organisait la conférence « Climat, quels enjeux politiques ?» avec Cathy Clairbeau, chercheuse en sciences de l'atmosphère et du climat, directrice au CNRS à Paris et professeure à l'ULB, François Genène, professeur à l'Université de Liège et à Sciences Po de l'Université Sorbonne à Paris. Il est l'auteur de « Géopolitique du changement climatique ». Les intermèdes du début et de fin étaient ceux de Bruno Coppens. Retrouvez cette conférence sur GP Climat, tout lié, gpclimat.be et aussi sur le site sonore, sonor.ulb.ac.be. Thank you.